proboscopiennes et proboscopiens, et sur un banc public relooké par Xavier Longueras, j'ai rencontré un ségoléniste. C'est toi, bien sûr. C'était il y a quelques lunes. Depuis, il a ramé, et tel une truite de Schubert, il a remonté le fleuve de ses ambitions. À la mode fréchienne, il a commencé en exerçant la prestigieuse profession de maître de conférence à Toulouse, avant de percer la carapace de la Fédération socialiste héraultaise. Par un heureux concours de circonstances, son panache blanc lui procura l'investiture pour les législatives roses de 2012, et le voilà devenu à 33 ans, l'âge du Christ, député de la nation. Bien sûr, héritier d'un Raoul Bayou, il emboîte le pas des députés héraultais du vin, ce qui ne l'empêche pas à la mode des libertés de se préoccuper de la pêche, mais le juriste reste présent. Il veille aux collectivités territoriales et à la démocratie de proximité, ainsi qu'aux droits des femmes. Vaste programme. Pour mieux le découvrir, il va se prêter à notre petit quiz intitulé « Le qui tais-toi ». Alors nous l'invitons, comme il se doit, à exercer sa liberté pleine et entière au travers d'une poignée de questions à double entrée et une sortie. Bon, permettez-moi de prendre un exemple. Si l'un de nous lui dit « droit de l'homme » et qu'un autre d'entre nous ose lui répliquer « non, droit des femmes », il aura le loisir de rétorquer, comme il veut, « moi, droit dans mes bottes » ou, s'il préfère, « droitude royaliste ». Enfin, il fait comme il veut, quoi. Je sais pas si j'ai été clair, enfin, on va jouer.
Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2 000 $?
Bon, alors on va commencer. Tiens, on parlait de vin, on parlait de pêche. Moi, je veux dire vin.
Le petit vin de long, qu'on boit sous les tonnerres.
Ou poisson.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde.
Alors, vin ou poisson?
Bah les deux, un petit pique-poule avec une droite de grillé et une petite bourriche d'huître entre amis.
Bon. Bon mariage.
Bah tiens, dans la série, bon, là, on parlait de vin. De vin. Bah, je veux dire rouge.
Ou blanc.
Rosé.
Ah, je ne serais pas étonné qu'il soit social. Tiens, on va. Allez, carrément, on donne dans la culture. Hein. Bobby Lapointe.
Ou Brassens.
Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas...
Alors, plutôt Bobby Lapointe ou plutôt Brassens?
Ou Paul Valéry, ou Jean Villard, ou Combas, ou Di Rosa. Vous savez, sur la 7e circonscription de l'Hérault, il n'y a que... tout n'est que culture.
Bon, je veux dire... Allez, on va revenir sur Terre, la Terre.
Oh, ben là, c'est facile. Quand même, surtout à 7, la mer.
La mer... On va danser.
Alors, la terre ou la mer?
C'est vrai que il y a une phrase que j'aimais bien, que citait souvent Georges Fraisse. Il disait qu'elle était de Confucius, j'en suis pas sûr. Là, les pieds dans la glèbe, la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est sûr, mais on a parfois les pieds dans la vase de l'étang d'Otto.
Je pensais que tu allais répondre la terre vue de la mer.
Ouais, pas mal aussi. Souvent, on dit que cette est une île au bord de la terre.
Oui, mais... La Terre, c'est souvent, elle n'existe que parce qu'il y a la mer.
C'est tout de suite un débat philosophique, alors.
Oui, oui.
Proboscopie philosophique.
Ah oui, oui, on n'hésite pas, là. Ben, je vais dire cumuler, moi, tiens.
Accumuler.
Oui, moi, je suis contre l'accumulation des richesses. Ça, on le voit aujourd'hui avec 67 familles qui détiennent autant que 3,5 milliards d'êtres humains. Et sur le cumul, vous savez, moi j'étais sur une liste au municipal, mais je me suis prononcé pour le non-cumul d'une fonction exécutive avec celle de parlementaire. Et même moi, je vais au-delà de la loi, parce que je pense qu'il ne faut pas cumuler d'indemnités. Je pense que quand on est parlementaire, si on a un autre mandat, conseiller régional ou conseiller général, on peut tout à fait se contenter de l'indemnité seule de parlementaire.
Annie Bonne, si tu nous entends. Bon, bravitude.
Non, rositude.
Bah, ségolénitude hein, et fidélitude absolue. Moi, je suis là tout à fait en accord avec moi-même. Voilà, fidèle en amitié, fidèle dans mes amitiés politiques. Et je ne suis pas déçu de l'être aujourd'hui, puisque je vois que Ségolène Royal, et bien justement, elle est fidèle à elle-même sur ses engagements en matière de développement durable, d'écologie, de protection de la planète.
Bon, moi je veux dire, c'est toi.
National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7.
Non, c'est moi. C'est toi ? Non, c'est moi.
Je demande.
Oui, mais comment... je le dis pour nos auditeurs, nous n'entendons pas la musique déjà dans le studio, donc ça nous aiderait aussi parce que...
Il faut mettre
ça...
le casque, il faut mettre le casque.
Ah, il faut mettre le casque, ça, oui. Effectivement. Mais bon, Hollande. Après la casquette, mettons le casque.
Voilà, tiens, allez, moi je vais dire député. Député.
C'est le casque sur le scooter.
Député.
Non.
Godillot.
Ah, Godillot, parfois, hein. C'est vrai que Godillot, voilà, il faut relire Robespierre pour se dire que quand même on exerce un mandat représentatif et qu'on est aussi face à sa propre conscience. Godillot, oui, c'est vrai que il y a la discipline des partis, mais on peut aussi savoir s'en affranchir. Après 22 mois, en tout cas, d'exercice de cette fonction, je me sens plus libre, en tout cas, aujourd'hui.
Bon, tiens, revenons à cette. Di Rosa ?
Ou Longueras ?
Di Rosa, écoutez, moi j'en profite juste pour dire un truc, c'est que tous les Français qui viennent visiter l'Assemblée nationale, ils rentrent par le quai d'Orsay et ils rentrent dans une immense galerie monumentale qui est décorée par Hervé Di Rosa. Donc si vous voulez, à l'Assemblée nationale, c'est vrai que quand on est chez toi, on se sent un peu chez soi.
Et puis tu as le MIAM quand même.
Ah, le Musée international des arts modestes. Et puis d'ailleurs, Di Rosa a exposé récemment au quai Branly, vous savez, au Musée des arts premiers. Le seul grand travaux et la seule œuvre culturelle des deux mandats de Jacques Chirac. Mais c'est une œuvre qui laissera des traces. En tout cas, c'est là qu'aussi Hervé Di Rosa a exposé récemment. Et en tout cas, les arts modestes, aujourd'hui, sont reconnus nationalement et internationalement. Alors, venez au MIAM, à 7.
Bon, juriste ?
Faute de normal sup ?
Ah ! Oui, c'est vrai que dans Normal Sup, j'ai vite compris que ça ne serait pas pour moi. J'avais fait une hypocagne, c'est vrai. Mais les livres, je préfère les lire à mes heures perdues plutôt que d'enseigner la littérature. Et oui, très vite, je me suis orienté vers le droit. Et d'ailleurs, j'y ai eu d'excellents maîtres. Hein, Dominique Rousseau, Paul Alliès, Olivier Ducrip, Georges Frêche et d'autres.
Bon, privatisation de la SNCM.
Vive Marc Dufour.
Écoutez, la SNCM, j'étais membre de la commission d'enquête, d'ailleurs, sur la SNCM. Je peux vous dire que c'est un dossier complexe et que le ministre des Transports qui vient d'être reconduit va avoir à donner des réponses très rapidement pour ces milliers de salariés et pour ce service public, parce que pour moi, c'est un service public qui est fait entre le continent et la Corse. Et je crois qu'il est attendu au tournant, Frédéric Cuvillier, par des milliers de salariés et par des gens aussi qui, comme moi, s'intéressent au sort des transports en Méditerranée.
Est-ce que la SNCM n'est pas victime d'un oukase de l'Europe favorisant une compagnie concurrente privée ?
Et je crois savoir que la SNCM, d'ailleurs, est en contentieux hein, européen, avec un grand cabinet d'ailleurs d'avocats, qui justement essaye de voir comment on peut faire en sorte que, malgré une réglementation européenne tatillonne, on puisse aussi assurer une ligne, je le dis, de service public, et donc que la SNCM puisse continuer d'offrir cette garantie d'un transport à des coûts raisonnables et avec une qualité assurée à l'ensemble des concitoyens du rivage de la Méditerranée.
Bon. Volem Villur al País.
Oula, tu fais des progrès. Hein.
T'as vu. Hein.
Alors, il est où mon pays ?
Oh Toulouse. Oh Toulouse.
Alors, il est où le pays ? Montpellier ou Toulouse ?
Ah, moi c'est 7, incontestablement 7. Et vous savez, d'ailleurs, je suis arrière-arrière-petit-fils d'un fait libre, Joseph Soulet, qui dédiait tous ses ouvrages à Mon País, donc 7, sa patrie. Et voilà, moi c'est indissolublement à 7 que je me sens lié. Mais vous savez, il y a un lien avec Toulouse, puisque le canal du Midi débouche dans l'étang de Thau. Que Sète est naturellement le port de Montpellier et de la région Languedoc-Roussillon. Et si même.
C'est le port de Toulouse aussi alors.
Bon. C'est un peu le port de Toulouse. Mais effectivement, mais attendez, c'était le grand dessein justement royal que de faire cette autoroute entre l'océan Atlantique Et la mer Méditerranée, et le carrefour de tout cela, c'est le port de Sète.
C'est ce qui a été annoncé.
Bon, en tout cas, je vis dans cette grande région qui est à la fois le Languedoc-Roussillon, le Midi-Pyrénées, finalement ce qu'est le Languedoc, et je suis profondément gars du Sud.
Bon, carrément, on ira plus loin, alors, capitale Poitiers, alors. Bon, bah, tout ça c'est la France, alors, voilà. Je veux dire, la Marseillaise.
Ou le Secanto.
Alors l'Europe des nations ou l'Europe des peuples?
L'Europe, écoutez, on va s'entraîner. L'Europe des peuples, l'Europe par la preuve, surtout là maintenant. Il est temps que l'Europe fasse la preuve de son utilité pour beaucoup de citoyens qui sont désenchantés, qui en sont presque à la détester. Donc il faut aussi que l'Europe reconquiert les cœurs des Européens, des citoyens européens. Mais oui, moi je crois à une Europe des peuples. Il faut que les peuples d'ailleurs se réemparent aussi d'une autre dimension, c'est l'Union pour la Méditerranée aussi. Moi, je pense aussi souvent à cela, on l'oublie beaucoup.
Ah tiens, à ce propos, je veux dire, moi, j'ai immigration.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec.
Ou alors, faute d'immigration
Ou tourisme?
Ben écoutez, moi, l'immigration, je continue de penser que c'est une chance pour la France. Et malgré la contamination des esprits aujourd'hui...
Pas le tourisme. Le tourisme, c'est pas une chance pour la France.
Si, mais attendez, je pensais diviser ma réponse. D'accord, voilà. Mais si vous dites immigration, moi je vous dis chance. Parce que la France est un pays métissé, je crois à la France métissée, je crois au métissage. Bien sûr, je ne nie pas les difficultés aujourd'hui de l'intégration. Et si vous m'appelez à parler tourisme, oui, je crois que c'est une véritable chance pour le tourisme, pour la France, pardon. C'est 11% du PIB français. Je crois que c'est une arme aussi qu'il nous faut actionner davantage en Languedoc-Roussillon et aussi dans ma circonscription, je pense à Sète, à Agde. Parce qu'il est peut-être temps aussi d'avoir, de renouer avec ce que fut l'ambition, par exemple, de la mission Racine dans les années 60. Or, il faudra bientôt une mission Racine pour 2. Le 21e siècle. Racine parce que quand 2. On voit la déliquescence du parc immobilier, que ce soit à la Grande Motte, que ce soit au Cap d'Agde, lorsque vous verrez la Tunisie, le Maroc redeviendront des destinations prisées, nous allons nous réécrouler ici en Languedoc-Roussillon. Et donc, je pense qu'il y a à la fois des dangers qui nous menacent à très brève échéance et en même temps... Je crois qu'on peut avoir, comme dirait mon ami Ségolène, un désir d'avenir pour ce territoire à travers notamment une politique touristique beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus volontariste.
Monsieur le ministre ?
Non, monsieur le député.
Voilà, monsieur le conseiller municipal d'opposition de la ville de Sète aussi. Ça, j'en suis très fier d'être à cette table. J'aurais aimé y être dans la majorité, mais j'y suis en tout cas conseiller municipal. Vous savez, pour l'enfant de Sète que je suis, c'est quelque chose de très important. Monsieur le député, effectivement, pour les 3 ans qui viennent, sauf dissolution. Et monsieur le ministre, je vois le petit clin d'œil. Oui, effectivement, jusqu'à mercredi 15h30, on m'a annoncé monts et merveilles. Heureusement, je suis un grand garçon et j'ai su rester garder la tête absolument froide et surtout les pieds totalement dans la glèbe.
Alors, François ?
Ou Manuel ?
Rivière !
François, définitivement François, et avec Manuel. Moi, je crois que nous avons élu un président de la République pour 5 ans. Dans ces 5 ans, il choisit avec qui il gouverne le pays au quotidien. Ce fut Jean-Marc Ayrault pendant 22 mois. C'est aujourd'hui Manuel Valls, sans doute pour les 3 ans qui viennent. Ils ont en tout cas toute ma confiance.
Bon, alors pour terminer, content ?
Je suis content, c'est printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire.
Hein ? Ou fier ?
Non, content de quoi ? Non, je suis absolument pas content. Moi, je rentre dans une période de. Je me donne 3 mois pour, après cette campagne municipale qui a été extrêmement rude, pour continuer à aller à l'écoute de mes concitoyens parce que je vois qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'impatience, beaucoup d'attente. Je crois aussi que lire des sondages, ça suffit pas pour comprendre ce que pense un pays. Donc voilà, moi je vous donne mon programme, c'est justement celui d'un homme qui n'est pas content de voir l'état dans lequel est son pays. Et donc modestement, moi, sur le territoire dont j'ai l'honneur d'être l'élu, pendant 3 mois, je vais continuer d'aller à la rencontre, maintenant que le débat municipal est derrière nous, pour pouvoir en profondeur discuter avec mes concitoyens et mieux comprendre quelles sont leurs attentes.
Oh, ben c'était le « Quittez-toi ».
Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2 000 $?
Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera.
Bon, c'est bon, on connaît maintenant les fulgurances de la pensée de notre candidat de la semaine, Sébastien Denaja. Il ne nous reste plus qu'à découvrir son moi profond. Ne désespérez pas, provoscopiennes et provoscopiens, chaque chose arrive en son temps. Et commençons par dresser sans plus tarder son portrait provoscopien. Bon, ben, c'est clair que... On pourrait dire qu'il est un peu hédoniste, le garçon. Il aime bien le pic-poule, la dorade, une petite bourriche d'huître. Bon, ce qui m'a amusé, c'est entre blanc et rouge, il choisit le rosé. Ça, on se refait pas, quoi. Et bien, en plus, il est cultivé. On voit qu'il a fait une hypocagne. Parce qu'entre Bobby Lapointe et puis Brassens, il préfère quand même des Paul Valéry et autres. Bon, cumulé, il est contre. Accumulé, il est contre. Il est contre plein de choses, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas content, faut voir quoi. Ça pourrait se discuter. Quant au député Godillot, en plus il est honnête, il est clairvoyant quoi. Oui, effectivement, bon, il appelle pas ça Godillot, il appelle ça discipline. Ça revient peut-être un petit peu au même. Ce qui est marrant, c'est quand on lui parle de privatisation. Aussitôt il dit, pouh, c'est complexe. Il y a du service public, etc. C'est compliqué. Et puis... On voit qu'il a bien été briefé, discipliné, parce que la réforme territoriale au niveau des régions... Bon, bah ça y est, il est déjà à Toulouse, puisque, vous l'avez peut-être compris, eh ben, Sète est le port de Toulouse. Bon, ça, c'est nouveau, on ne savait pas. Immigration ou tourisme, c'est une chance. On a vraiment du pot d'avoir des immigrés qui font du tourisme en France. Quant à François ou Manuel...
Les reformulations...
Raccourcis d'histoire.
Je ne rendrai pas...
Quant à François ou Manuel, bon, ben, non, c'est l'un avec l'autre.
Il ne faut pas confondre le tourisme et l'immigration.
Mais surtout, ce qui est clair, c'est qu'au terme de ce qui tais-toi, le garçon, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Bon, alors maintenant, on va passer à la suite. Eh bien, sous les pavés, la plage, et sur la plage, Sébastien Denaja. La plage ou le port, enfin, à voir. Il aurait dû être maire de la bonne ville de Sète. Il préfère les ors de la République du côté du Palais Bourbon, en attendant d'être nommé secrétaire d'État. C'était fait. Il attendait dans l'antichambre. Le boudoir élysien est patatras, perdu, au purgatoire. Mais pourquoi? Trop jeune? Trop royaliste? Trop socialiste? Ou peut-être trop mourien. À voir. Quoi qu'il en soit, le bon, la brute et le truand l'ont convié à la table provoscopienne. Il a accepté d'être parmi nous durant 90 minutes. Chacun à leur tour, les trois coyotes que nous sommes l'interpelleront bonnement, à la brutale et avec mauvaise foi. Écoutons maintenant la douce litanie du bon quand il déverse ses mots dans l'encre solférinienne.
Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Sébastien Denaja, monsieur le député, bonjour. Élu de la République, depuis bientôt 2 ans, tu représentes à l'Assemblée nationale la circonscription de Sète Agde. Je n'aborderai pas les avatars de la politique gouvernementale, ni le rapport qui devrait exister entre le gouvernement et sa majorité parlementaire, ni même que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est décidé au Conseil des ministres, inhérent au principe présidentiel de la Ve République. Je n'aborderai pas non plus directement le résultat des dernières élections municipales, mais plutôt cette démobilisation des citoyens par rapport à l'élection. Est-ce une défiance vis-à-vis de la démocratie ? Dont ils auraient le sentiment d'une incapacité à régler leurs problèmes quotidiens, l'emploi, le logement, la sécurité, etc. L'abstention est-elle une forme négative d'expression, d'un refus, non pas du choix qui est proposé à travers les différents candidats, mais plutôt du système tout entier, inadapté à leurs yeux, à la réalité de la situation? La démocratie est-elle en danger par ce fait? Les États-Unis sont un bon contre-exemple quand on sait qu'encore récemment, un Américain sur trois en âge de voter se déplaçait pour élire le président. Ce refus de participer anticipe-t-il une demande subliminale d'un régime autoritaire avec, comme à Rome, la désignation d'un tyran pour une période limitée? Je rappelle que dans la Constitution, il est prévu un article 16 que l'on pourrait utiliser à répétition. Faut-il, comme en Belgique, rendre le vote obligatoire avec en plus l'introduction du comptage du vote blanc qui, quand il atteindrait plus de 50%, impliquerait une nouvelle élection? Je crois d'ailleurs que le vote blanc va être comptabilisé pour les prochaines européennes. Mais je ne sais pas quelles pourraient en être les conséquences si effectivement plus de la moitié des électeurs ou des gens inscrits sur les listes électorales ne se déplaçaient pas ou exprimaient un vote blanc. Faut-il changer le mode de représentation en introduisant la proportionnelle systématique permettant aux partis minoritaires d'être présents, comme en Allemagne, malgré le seuil des 5% nécessaire à cela? Bref. Comment lutter contre l'abstention qui, quand elle devient trop importante, remet en cause la représentativité des élus? Autrement dit, notre système est-il encore crédible ou tiendra-t-il encore longtemps? Voilà toute une série de questions que j'avais envie de te poser. On peut y revenir, point par point. Et donc, je vais m'arrêter là une seconde pour laisser...
Le jingle.
Le jingle.
Camarades et compagnons, si nous étions en révolution, notre invité serait peut-être Cambacérès. Mais proboscopiennes et proboscopiens, nous sommes sur divergence et on a seulement Sébastien Denaja. Le bon a chauffé ses cordes vocales pour converser avec lui. Permettez-lui de le flatter un petit quart d'heure. À toi le bon.
Donc je reviens un petit peu sur toutes les questions que je me suis posées. Est-ce que tu peux nous faire un commentaire d'abord sur le problème de l'abstention? Je relisais ce week-end un livre écrit il y a fort longtemps d'Alain Lancelot, qui était prof à Sciences Po et qui avait écrit un bouquin à la Fondation nationale des sciences politiques sur l'abstention. Et je me suis aperçu qu'en regardant les chiffres de l'abstention il y a 40 ans, l'abstention était beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est actuellement. Et paradoxalement, peut-être avec le développement de la médiatisation de la société, les réseaux sociaux, etc., le fait que l'abstention se situe entre 35 et 40%, y compris pour des municipales, apparaît comme un espèce de crime de lèse-majesté. Alors, quid de cette abstention?
D'abord, c'est toujours un phénomène effectivement assez complexe, hein, parce qu'il y a l'abstention, effectivement, refus du système, il y a l'abstention sanction aussi. Donc, il faut regarder en plus là... On parle de municipal. Par exemple, à 7, la participation a été plutôt élevée. On est à près de 75% de participation. Bon. Donc, si vous voulez, il faut regarder ville par ville, contexte par contexte. Mais enfin, globalement, j'ai bien vu, effectivement, qu'il y avait une abstention forte à l'échelle nationale. En général, on l'interprète quand même toujours comme une abstention sanction dans ces cas-là. Donc, je crois que d'ailleurs, si le président de la République a tiré des conclusions immédiates du vote des municipales, c'est non seulement parce que le Parti Socialiste a perdu 155 communes de plus de 9000 habitants, mais aussi parce qu'il y a une abstention très forte.
On parle même maintenant de démocratie d'abstention.
Peut-être, oui. Mais je crois que c'est des phénomènes qu'il faut, comme le disait Jean-Pierre Foubert, analyser aussi sur la durée et sur le temps long. Parce que sinon, on est conduit à faire de mauvaises interprétations.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde l'abstention qui serait une abstention sanction, je dirais que c'est plutôt rassurant, quelque part. Ça veut dire que si un effort est fait pour régler une partie des problèmes que les gens ont exprimés par l'abstention, ça veut dire que c'est un électorat qui est récupérable, qui ne s'est pas réfugié éventuellement dans d'autres votes, type Front de Gauche, par exemple, ou voire Front National.
Oui, et puis il y a aussi, tout simplement l'abstention dilettante. Parce que ça aussi, il faut oser le dire.
Le pêcheur à la ligne.
Non, mais il y a l'abstentionniste qui se dit qu'il connaît à peu près les résultats parce qu'il a lu des sondages. Parce que les électeurs, c'est quand même des gens intelligents.
Tu ne vas pas nous dire que c'est pour ça que Bourg a perdu quand même.
Je pense qu'il y a beaucoup.
Parce que tellement ils croyaient qu'ils avaient gagné.
On sait aussi qu'il peut y avoir parfois des démobilisations lorsqu'on connaît le résultat à l'avance. Rappelez-vous, par exemple, du référendum sur le quinquennat. 80% d'abstention. Mais parce qu'il y avait une question à laquelle les Français savaient d'évidence on répondrait oui, ils ne se sont pas déplacés. Bon, donc il y a aussi...
C'est pas forcément vrai dans des communes où il n'y avait qu'une seule liste. Par exemple, je prends l'exemple de Cournonsec, puisqu'on évoquait Jean-Pierre Moore. Eh bien, à Cournonsec, il n'y avait qu'une seule liste et la mobilisation a été relativement la même la moyenne départementale, plus de 60% de participation, alors qu'il n'y a qu'une seule liste qui est élue, évidemment, au premier tour avec 100%. Donc, le résultat acquis d'avance, ce n'est pas non plus forcément non, aussi évident.
Ça, c'est... Moi, ce que je voudrais dire...
Je peux me permettre. Ouais, il y a quand même une analyse où, dans les endroits où, par exemple, en 2012, François Hollande avait fait plus de 62%, les taux d'abstention sont beaucoup plus importants que dans les endroits, par exemple, où il n'avait fait que 35 ou 40%. Donc, à partir de ce moment-là, ça accrédite quand même, quelque part, le vote sanction.
Oui, non, mais ça, il est avéré hein, dans les quartiers populaires, chez les jeunes, chez beaucoup de ceux qui avaient fait l'élection présidentielle. Moi, je veux regarder un petit peu au-delà aussi, parce que là, on parle chaque fois du moment du vote. Et vous l'avez rappelé plusieurs fois sur un ton souriant, mais c'est aussi très sérieux. Hein, mon adhésion aux idées politiques que défend depuis de longues années Ségolène Royal. Moi, je crois à la démocratie participative. Je crois aussi à ce qu'un de mes professeurs de droit constitutionnel à Montpellier appelle la démocratie continue. C'est-à-dire qu'au-delà du moment du vote, il faut aussi que la démocratie continue et qu'il y ait une mobilisation des citoyens. Par exemple, si c'est aujourd'hui la nouvelle ministre de l'écologie, Ségolène Royal, ça tombe bien, veut réussir la transition énergétique, la loi sur la transition énergétique. Il ne suffit pas de réunir une majorité à l'Assemblée nationale avec les Verts, les radicaux et tout ce qu'on voudra. Il faut aussi entraîner le pays. Il faut aussi associer les citoyens tout au long aussi d'un mandat du quinquennat là, pour l'élection au niveau national. Donc si vous voulez, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on s'adresse aux électeurs au-delà du vote. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure très simplement que moi, je vais continuer en fait de faire du terrain là comme je l'ai fait pendant la campagne. Parce que très souvent aussi, d'ailleurs, quand vous poussez une porte pendant une campagne électorale, les gens vous disent « Ah, on vous voit que pendant les élections ». Ben justement, je crois qu'il faut que, pour qu'on évite de nous dire cela, il faut continuer en fait à faire du porte-à-porte hors temps d'élection. Donc moi, l'élection législative, elle n'est que dans 3 ans. Ben maintenant, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais justement faire du porte-à-porte encore plus que ce qu'on a pu le faire pendant l'élection municipale. Parce que je crois aussi voilà, à la continuité de la rencontre avec les citoyens et au dialogue avec les citoyens. Alors chacun fait comme il peut. Moi, je fais des réunions de compte-rendu de mandat. Nous, tout au long de l'année, un dialogue le plus permanent possible avec mes concitoyens. Bon, je crois que c'est aussi à ça que chacun est appelé. Aujourd'hui, on parle de gouvernance aussi, des villes, des métropoles, etc. Mais comment ces villes sont gouvernées aussi en proximité, dans les quartiers, dans le dialogue avec les citoyens, pour les associer un maximum aux décisions qui les concernent. Lorsque vous avez un projet, ne serait-ce que des rénovations d'une rue... d'une artère, bon, comment les commerçants, par exemple, sont vraiment associés aux décisions qui sont prises. Bon, voilà, moi, je crois que c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir, au-delà du moment du vote. Alors, bien sûr, le moment du vote, ça mobilise tous les adeptes de sciences politiques, de sondages, d'historiens, de la vie politique française, les hommes politiques eux-mêmes qui doivent tirer des enseignements. Mais je crois qu'il faut regarder au-delà du moment du vote. C'est pour ça que l'abstention, ce qui m'inquiète le plus, d'ailleurs, c'est l'abstention, si vous voulez, des citoyens entre deux votes. Il n'y aurait rien de pire que l'abstention citoyenne entre le mois de mai 2012 et le mois de mai 2017. Ce qui m'importe, moi, c'est comment un pays se mobilise tous les jours pour faire aussi avancer son pays.
Mmh. Voilà. Comment, je ne sais pas, mais où je sais, moi, dans la rue.
Bah, c'est une façon aussi de se mobiliser, mais bien sûr. Mais moi, hier, j'ai bien vu que des milliers de Français étaient réunis à Paris pour une grande manifestation contre l'austérité. Ça aussi, c'est une façon, effectivement, de faire
vivre la démocratie. Et des milliers de motards en colère aussi contre la diminution de la vitesse sur les
Ça me paraît plus sectoriel comme revendication, mais je ne l'ai pas examiné précisément. Bon, en tout cas, oui, la manif, c'est une façon de faire vivre la démocratie. Moi, j'ai fait quantité de manifs. J'en fais un peu moins aujourd'hui, je vous avouerai, que la gauche est au pouvoir.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Je me souviens qu'en 2002, quand Lionel Jospin n'a pas pu figurer au second tour, on a dit le bilan n'est pas suffisant. C'est-à-dire on ne peut pas être réélu sur un bilan. Et paradoxalement, là, on s'est aperçu que le bilan, le mauvais bilan, entre guillemets, en tout cas perçu comme tel, de l'action du gouvernement s'est traduit par un vote sanction. C'est-à-dire que quand le bilan est positif, il ne sert à rien pour une élection, et quand il est négatif, il sert de base à une sanction.
Moi, il vaut mieux toujours avoir un bilan positif. Mais effectivement,
le
bilan ne sert jamais de gage de réélection. Ce qu'il faut toujours, c'est un projet, une capacité à mobiliser. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais me permettre, pas une critique, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une difficulté aussi que ressentent beaucoup nos concitoyens, c'est d'être enfermé dans un discours économiciste, quoi, économique. Des déficits structurels, des courbes, des ceci, des cela, bon, souvent dans un langage hyper techno dans lequel on comprend absolument rien. Et
puis avec les conseillers du prince, tels que Eli Cohen.
Mais moi, je crois que ce pays, il a aussi soif d'un discours politique fort. Il a besoin aussi d'entendre quel est le projet de société. De quoi, ou plutôt de quelle société, le pacte de responsabilité est-il le nom ? C'est ça aussi qui intéresse les Français. Quel est le projet social, en fait ? Quel est le projet de société pour la France ? Quelle est notre vision de la nation ? Quelle est notre vision de la République ? Et je crois qu'aujourd'hui, comme effectivement, beaucoup sont dans la galère, beaucoup attendent un job, beaucoup sont à la recherche d'un logement, beaucoup sont dans des attentes qui sont purement matérielles, mais ça n'empêche pas que même quand on est chômeur, même quand on est dans la difficulté, on est aussi en attente d'un discours purement politique. Sur la société, sur le projet de société que nous défendons, au-delà du fait de savoir si on va, avec tels et tels outils économiques, financiers, budgétaires, régler le problème du chômage, du déficit extérieur, du commerce extérieur de la France, voyez. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vu dans cette campagne municipale, c'est les contradictions, hein, souvent aussi, de nos concitoyens, qui veulent parfois tout et son contraire. C'est pour ça que c'est très difficile aussi, quand on est responsable ou en tout cas élu, de bien mesurer quel est le message des Français. Parce qu'il y a aujourd'hui d'abord une diversité aussi sur le territoire. Je pense que je crois plus que jamais à la géographie politique. Je crois qu'on n'envoie pas les mêmes messages quand on vote FN dans le Sud ou quand on vote FN en Alsace. Je ne crois pas qu'on envoie le même message quand on s'abstient dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis.
C'est la vraie géopolitique telle que Yves Lacoste a construit.
Dans les quartiers UP de Cannes ou de Fréjus. Vous voyez, je crois que la France est un pays extrêmement divers, qui a une géographie aussi politique dont il faut tenir compte. Et qu'aujourd'hui, il faut éviter les réponses simplistes. Moi, d'ailleurs, ce que je dis, ce qu'entendent les auditeurs, c'est que je n'ai pas de réponse claire. Parce qu'il faut se donner aussi le temps que tout cela infuse aussi. Voilà, il faut aussi que les citoyens nous donnent les clés des messages qu'ils ont voulu passer. Je dis des messages qu'ils ont voulu passer.
Vous avez quand même pu vous préparer tous un peu avant le fait d'être élu. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a l'impression que... Bon, alors maintenant je suis élu, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?
Non, mais ça, c'est de la caricature. Parce que d'abord, il faut arrêter avec ce qu'ont été les 22 mois... de Jean-Marc Ayrault et de la majorité. On a fait des trucs très bien. La loi consommation de Benoît Hamon, c'est un texte très bien, avec des avancées concrètes pour le crédit à la consommation, la création de l'action de groupe, et puis des choses aussi concrètes que le prix des lunettes, le prix du parking, bon, des choses vraiment qui font avancer le schmilblick. La loi sur l'égalité femmes-hommes, dont je suis rapporteur, c'est une loi qui est saluée par tout le monde. Que ce soit aussi le dispositif des emplois d'avenir. Même à droite, dans les communes de droite, on crée des emplois d'avenir. Parce que quand les entreprises ne sont pas dans la situation de créer des emplois, bon, bah, il faut de l'emploi public. Le contrat de génération, c'est un outil qui est pas mal aussi.
Réduire les charges
pour un jeune et pour un senior, pour maintenir l'emploi du senior et inciter à la création d'un emploi de jeune, c'est pas un mauvais outil. Bon, le mariage pour tous, je suis désolé, mais moi je suis très fier d'avoir voté la loi sur le mariage pour tous, parce que c'est un droit nouveau pour certains et ça n'en enlève rien aux autres.
Oui, mais enfin, 20% de pauvres qui sont toujours pauvres, c'est pas les...
Ah non, mais
c'est
ça,
pas la gauche qui les a créés.
Je vous ai pas dit que les 22 mois passés sont miraculeux et que d'ailleurs on a vu des résultats extraordinaires aux élections municipales. Non, j'ai bien entendu la sanction. J'ai bien entendu que pour eux, les résultats n'étaient pas suffisants, que la preuve de notre efficacité n'était pas apportée. Cela étant, je pense aussi que nous avons fait avancer un certain nombre de choses. Par exemple, la réforme des retraites aussi. Elle est sans doute critiquable sur un certain nombre d'aspects, mais elle crée un compte formation tout au long de la vie. Elle est beaucoup plus favorable pour les femmes d'une manière générale. Elle permet plus facilement de racheter des points pour un étudiant, enfin quelqu'un qui a fait des études longues, pour les apprentis aussi. On compte le temps de l'apprentissage dans le calcul de la retraite. Il y a des avancées sociales. Alors, il ne faut pas aussi s'attendre à ce qu'aujourd'hui, on est des acquis sociaux d'une ampleur de l'ampleur de ceux qu'on a eu
voilà.
En 36, en 80.
On va continuer.
Aussi, on est déjà aussi dans une social-démocratie relativement aboutie. Et donc c'est sûr que des grandes réformes symboliques et emblématiques comme elles ont pu avoir lieu par le passé, il n'y en a plus aujourd'hui. Parce que
non mais on converse, conquêtes... on diverge. Provoscopie finirait par en oublier l'heure. Alors on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Oh, dédié à Sébastien Denaja, Charles Aznavour, je me voyais déjà.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Le bon s'en est allé solferiner dans quelques fédés improbables, tandis que la brute s'apprête à dégainer ses coltes armées de mots rouges. Prenez garde à vous, monsieur le député, quand vous croirez qu'il vous tend une perche, ce sera le plus souvent qu'une pelle sorélienne destinée à creuser votre propre tombe. Et il en a enterré le bougre, Jean-Pierre, si tu m'entends. Quoi qu'il en soit, c'est à son tour de provoscoper notre invité divergent. Va-t-il le pointer ou le tirer? En fait, à toi la brute, non pas à toi la brute, à moi la brute.
Se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Oh putain, 7 ans. Le changement d'ici un septennat, en 2021. Et puis quoi encore ? Chacun ne peut que constater que les idéologies, ces machines de prêtes à penser, ces idiomes en isme, sont bel et bien mortes. Il ne reste plus qu'à dresser une supplique pour les enterrer sur la plage de Sète. Pourquoi pas ? Oui, les ismes sont morts. Presque tous les ismes, sauf deux peut-être, le capitalisme globalisateur et le communisme orange des Chinois. Mais vous le savez, la nature a horreur du vide, et en vertu d'un ancien principe de physique appelé l'entropie, rien ne se perd, tout se transforme. Et les ismes de muter en itudes. Bougez pas, calez-vous dans vos fauteuils, prêtez attention à cela. Prenons un exemple. Le socialisme, vous êtes d'accord avec moi, il est mort. D'aucuns diront, voilà une bonne nouvelle. Mais qu'est-il devenu ? Il a muté pour devenir la socialitude. Et c'est quoi la différence, me direz-vous ? Ça a au moins le mérite de clarifier les choses. On est passé de l'ismologie à l'itudologie. Et ça a commencé sur la muraille de Chine en 2006 avec la bravitude de Ségolène Royal. De l'être, on passe peu à peu à l'avoir. De la posture intellectuelle doctrinale à l'attitude gestionnaire et pragmatique. De là, on arrivait progressivement à la valsitude, il n'y avait qu'un pas, ça aurait lien. Jouer les dissidents, quitte à ce que les détracteurs s'interrogent, mais qui va garder les enfants ? La valsitude est un passage, un sas, qui devrait transformer la gauche apaisée, devenue DRH, afin que l'on passe du socialisme jaurésien à la socialitude post-mitterrandienne. Car c'est bien lui, la mythe, qui a commencé. Comme on le dit dans les cours de récréation, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Et ça donne un nouveau mode de gouvernement des hommes, ainsi que de nouvelles règles du jeu politique. Comme un mélange de mistigris et de chaises musicales. Comme une nouvelle république de copains qui joueraient aux coquins. Le tout avec des gages quand t'as choisi le mauvais cheval. Exemple. Je prends Jouyer et je te donne le Mas. Tu me prêtes Cambadélis et je prends mon désir pour une réalité. T'as perdu Moore, Payon sort du jeu. Dommage pour le ségoléniste des Najars. Bon, c'est pas tout ça. Mais c'est quoi la socialitude ? C'est dire quoi sans dire comment, tout en différant allègrement le quand, on ne sait où ni avec qui. Quant au pourquoi, à chacun de deviner. Enfin, du mauvais journalisme, bref, de la com à 2 francs 6 sous. Dans la série, la route est droite, mais la pente est rude. Genre rafaritude. Misère, misère. Je préférais vraiment le temps de la rock'n'roll attitude. La valsitude me fait tourner la tête. Je crois que je vais changer de manège, nom de Dieu. Bah dans le studio, Sébastien Desnaja est avec nous. Il est venu pour diverger. Il ne devrait pas être déçu. Bon, je vais commencer par une petite provoscopie. La valse hollandaise est-elle sarco-compatible ?
La valse hollandaise est-elle sarco-compatible ? Mais je pense que Sarkozy, ça n'avait pas trop valsé. Hein.
Ben pourtant, il lui avait proposé.
Écoutez, là, pour l'instant, c'est une valse à deux temps. Puisqu'on a eu le premier temps avec Jean-Marc Ayrault, un deuxième temps qui s'ouvre avec Manuel Valls.
C'est plutôt une valse à hésitation.
Non. Il y a eu trop de jeux de mots et j'ai peur, moi, de ne pas avoir suffisamment d'à-propos pour faire et des bons jeux de mots et
en même temps. La valse hésitation, c'est quand le troisième temps est suspendu.
Non, moi, je vois pas d'hésitation. Au contraire, là, j'ai vu que la main du président ne tremblait pas. Il a pris les choses à bras le corps. Il a entendu les Français. Il a entendu qu'il y avait un message effectivement puissant qui avait été envoyé aux élections municipales. 155 communes perdues par le Parti Socialiste dans les communes de plus de 9000 habitants. Dès le lundi, effectivement, il a changé de Premier ministre. Et
on est revenu à la situation d'avant 1977, si je comprends bien.
Sur la question des élections municipales, ouais. Oui, je pense que sur la question du socialisme municipal, là, il y a une inflexion en profondeur à mener pour un jour être en capacité de reconquérir ces villes.
Montpellier, là, faire paquet de chômeurs.
Je coupe tout de suite, là, parce que vous m'avez dit l'appel saurélien, etc. Moi, je suis le premier, j'étais sur le plateau de France 3 ce soir-là, à avoir félicité Philippe Sorel pour son élection. D'abord parce que moi, j'ai longtemps appris au contact de Georges Frêche que le seul maître en démocratie, c'est le suffrage universel. Donc la première chose, c'est que Philippe Sorel a gagné cette élection parce que les Montpelliérains l'ont voulu. Et il est le maire de tous les Montpelliérains. Moi, je considère en plus, parce que je le connais bien, je peux même oser dire que c'est un ami, que Philippe Sorel est un homme de gauche, qu'il est pour moi un socialiste, et qu'il aura toute l'attitude pour réintégrer ses rangs ou pas, c'est lui qui verra. Mais en tout cas, C'est la victoire d'un homme en synergie avec une population, les Montpelliérains. Et je crois qu'il faut le saluer et lui laisser sa chance aujourd'hui de bâtir la politique pour laquelle il a été élu. Et s'il y a eu un désaveu de la liste avec le candidat officiellement investi par le PS, moi je n'estime pas en tout cas que c'est un désaveu pour la gauche à Montpellier. Au contraire, je crois que c'est une claque magistrale pour la droite parce qu'elle fait quoi 30%, 35%.
C'est le meilleur score à Montpellier pour la gauche, c'est le meilleur score en pourcentage et en valeur absolue depuis 1977.
Oui, non mais c'est pour ça, moi je suis tout à fait en phase avec moi-même lorsque je me balade dans les rues de Montpellier aujourd'hui pour vous rejoindre à Divergence. Il y a des villes de l'Hérault où, par contre, on est un peu plus inquiet lorsque j'irai me balader sur les allées à Béziers. Bon, là, c'est pas le même climat. Moi, je crois que voilà, Montpellier reste une ville ouverte, moderne, ancrée dans une pensée de gauche qui est quand même, quoi qu'on en dise, une pensée généreuse, altruiste. Et donc, moi, je suis tout à fait confiant pour l'avenir de Montpellier. Puis, je vais vous dire très simplement, moi, je crois que Philippe Sorel aussi, il gagne parce qu'il a su insuffler une dynamique. Et puis, parce qu'en face, il y avait une campagne, en tout cas, qui laissait plus qu'à désirer. En tout cas, je vais vous dire aussi, pour être encore plus clair, qu'il faut absolument que les enseignements soient tirés par la tête de liste elle-même. Parce qu'on parle de responsabilité collective. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des militants à Montpellier extrêmement mobilisés. D'ailleurs, partout sur le territoire, les militants socialistes ont été remarquables. Bon, mais en politique, il faut d'abord tirer les enseignements avec son niveau de responsabilité. Donc, le premier niveau de responsabilité, c'est la tête de liste. Et le très très proche entourage, qui n'est pas forcément un entourage politique. Mais est-ce qu'il était bienvenu de faire une campagne avec des cartes postales ? Est-ce que lorsque on choisit une affiche, ne serait-ce qu'en noir et blanc, vous voyez, il y a peut-être aussi des questions qui se posent chez certains pseudo-grands publicitaires.
Bon, ça c'était Montpellier. J'aimerais bien qu'on parle de refonte des territoires, du millefeuille. Un vrai serpent de mer depuis la directive européenne inventeuse d'intercommunalité. Au début, on parlait de bassin de vie, puis d'agglo, plus ou moins métropolisé, à la mode chevènementiste. On passe à la vitesse supérieure, refonte des régions, suppression des départements à terme. Alors, depuis ce matin, ça fait quelques jours, mais depuis ce matin particulièrement, il y a une carte de France qui circule sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, avec ce fameux redécoupage. Bon, le Languedoc, quoi qu'il arrive, il disparaît. Dans une grande région, Languedoc-Midi-Pyrénées, dont la capitale nécessairement sera Toulouse, faisant de Montpellier une espèce de sous-préfecture. Alors, c'est quoi ton sentiment là-dessus ?
Bah, mon sentiment d'abord, c'est que c'est quand même un serpent de mer, hein, tout ça. Parce qu'il suffit d'avoir lu, il y a 20-25 ans, La France ligotée de Georges Frêche. Moi, je l'ai lu.
Ah, puis c'était le rapport Balladur, enfin commandé par Balladur.
Je veux dire, la DATAR travaille depuis 35 ans sur des cartes de ce type, avec des grandes régions, etc. Bon, pourquoi pas. Moi, je vais vous dire, là, j'ai aussi une toute petite expertise. Il se trouve que j'ai fait ma thèse. Le titre de ma thèse, ça, vous trouverez tout de suite le lien. Ça, c'est « Expérimentation et administration territoriale ». Voilà le sujet de ma thèse. Donc, 5 ans sur ce sujet, ça me donne un tout petit peu de recul aussi sur les réformes de ce type. Ce que j'ai toujours entendu aussi, pardon, je vais beaucoup le citer, mais bon, c'est la proximité de la fac de droit avec ses studios, c'est que, et c'est pas sans lien avec ce que vous venez de m'évoquer tout à l'heure sur Montpellier. J'ai toujours entendu dire Georges Frêche que si Montpellier n'était pas fort, le Languedoc-Roussillon serait faible et serait voué à disparaître. Rappelez-vous de 2004, et à peine élu, Georges Frêche veut créer la Septimanie. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il veut donner une unité à ce territoire avec la menace de la dislocation d'une part du Roussillon vers Midi-Pyrénées ou voire l'Aquitaine et la partie Languedoc vers, enfin dites Languedoc, vers plutôt PACA ou autre. Bon, donc ce risque de dislocation, il est ancien. D'ailleurs, la région Languedoc-Roussillon a été celle qui a été rajoutée au dernier moment lorsqu'on avait refait cette carte administrative dans les années 50. Bon, donc il faut quand même regarder ça avec beaucoup de prudence. La carte dont vous parlez, elle circule, mais d'abord, moi j'ai bien entendu le Premier ministre mardi dernier. Les régions sont appelées à s'interroger elles-mêmes sur leur fusion avec leurs voisines. on pense quand même immédiatement à la Haute et la Basse Normandie, par exemple. Bon. Donc, il y a des fusions qui apparaissent comme évidentes.
Oui,
d'autres,
Nantes en Bretagne.
Écoutez, d'autres n'apparaissent pas absolument évidentes. Et puis, je trouve que c'est un peu facile, en fait, cette carte aussi. Parce que pourquoi ne réfléchirait-on pas comme le firent les révolutionnaires ? Avec une carte vierge, et en se disant quelles sont les nouvelles solidarités géographiques. Par exemple, prenez quelqu'un qui habite à Millau. Bah, aujourd'hui, il est en Midi-Pyrénées, mais en fait, il est beaucoup plus tourné vers Montpellier depuis que le viaduc est terminé que vers Toulouse. Bon. Donc, il faut oser aussi réfléchir.
Par contre, quelqu'un de Carcassonne,
moi,
est tourné vers Toulouse.
Je suis tout à fait, je vais vous dire, je suis très open sur cette question, en me disant, d'ailleurs, c'est un peu un rêve, quand on a 35 ans, de se dire, ben, pourquoi on ne ferait pas comme l'ont fait les révolutionnaires qui avaient à peine 25 ou 30 ans, d'ailleurs. Bon. Pourquoi on ne prend pas une carte avec les frontières de la France et qu'à l'intérieur, on se dit que tout est vierge et qu'on doit réfléchir vraiment, sincèrement, sur quelle est la France aujourd'hui et comment on administre la France aujourd'hui. Effectivement, est-ce que Montpellier peut être, alors qu'elle est une ville, à mon avis, majeure, du pourtour méditerranéen, aux confins d'une région qui soit Midi-Pyrénées, ou aux confins d'une région qui serait PACA ? Bon, ça pose question. Pourquoi elle ne serait pas au contraire au centre d'une région qui irait de Pyrénées-Orientales jusqu'au Cantal, bref, jusqu'à quelques départements du sud de l'Auvergne, et pourquoi pas en prenant...
C'est la position que défend, défend ta collègue...
Anne-Yvonne Le Dain. Je sais, on a fait le dessin ensemble.
J'ai bien entendu, cette grande région Languedoc-Midi-Pyrénées, il y a d'un côté, bon, Toulouse, qui nécessairement, obligatoirement, est la capitale, le port de Toulouse, c'est 7, donc il faut impérativement que Montpellier mange 7, et comme ça, le port de Toulouse, ce sera Montpellier.
Reste quand même la volonté du gouvernement de réduire le nombre de régions.
Oui, non, mais ils veulent réduire
ça reste une réalité.
Il y a que ce que souhaite le gouvernement, ce que autorisera le Parlement et ce que souhaitent les citoyens.
Autorisera le Parlement.
Oui, parce qu'in fine, c'est quand même les députés qui votent la loi.
Bon. Oui, enfin, alors,
comme il se trouve que pour...
Il n'y a qu'une seule fois où ils se sont révoltés, c'est en 62. Hein.
Pour réformer la carte des régions, il faut un vote du Parlement. Pour supprimer même ou faire muter le département, il faut carrément une révision de la Constitution. Donc c'est soit les parlementaires, soit le peuple directement. Moi, là-dessus, je me sens très libre. Je trouve qu'il faut qu'on laisse aller totalement notre imagination. Et réinventer, pourquoi pas, effectivement, l'administration territoriale de l'État et de la décentralisation. Mais pas forcément en fusionnant des régions qui, elles-mêmes, d'ailleurs, étaient faites de manière un petit peu abstraite. Voilà, moi, je vous dis, pourquoi on ne réfléchirait pas totalement librement ? C'est-à-dire libre de toutes les frontières qu'on connaît actuellement. Vous l'avez dit sur le schéma intercommunal. Bon, mais là, c'est pareil. Est-ce que 7 doit effectivement devenir vraiment le port de Montpellier dans une grande communauté urbaine ou pas ? Toutes ces questions-là, elles sont posées. Moi, je vais vous dire, j'en peux plus. Là où je suis pas content, vous avez dit que j'étais pas content. Vous avez vu la période qu'on vit là, en ce moment-là, avec les espèces de négociations d'arrière-boutique là, sur les présidences d'agglo. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Les gens, ils ont envie de vomir quand ils voient ça. Ils ont envie de gerber. Moi, j'ai envie de gerber. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut aujourd'hui faire justement renouer. Jean-Pierre Foubert nous a parlé d'abstention tout à l'heure. Vous croyez qu'en ce moment-là, les petites manigances d'arrière-boutique pour les présidences d'agglo, ça a réconcilié les citoyens avec la classe politique ? Mais au contraire,
ça, c'est pas gagné.
Ça les écarte.
Donc, je suis
pour le suffrage universel. Par exemple, là, c'est pareil. Moi, je suis pour penser l'ère intercommunale comme un lieu de démocratie, justement. Mais il va falloir vraiment que, en tout cas lors de la prochaine campagne présidentielle, ça c'est sûr, ça sera au cœur du débat public. Nous ne l'avons pas fait pour l'instant parce que la carte intercommunale n'était pas achevée. Mais c'est pas possible que des lieux où sont concentrés autant de pouvoirs aujourd'hui, autant de conséquences, autant de moyens financiers, ne soient pas des lieux de démocratie absolue.
Alors, de Montpellier, montons à Paris.
Mais je critique pas le fait que le maire de Montpellier devienne le prochain président de
l'agglomération. Non, mais ça pose un vrai problème.
Je trouve que c'est très bien.
Ce que tu dis, ça pose un vrai problème. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les agglos, les intercommunalités, voire les communautés urbaines, n'étaient pas basées nécessairement sur un rapport de force gauche-droite.
Oui.
Est-ce que le fait qu'on élise demain un président d'agglo au suffrage universel ne va pas politiser, entre guillemets, cette élection à la présidence et donc réintroduire un phénomène qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un rapport de force strictement politique.
Mais si c'est
alors qu'il est la gestion de l'intérêt commun.
Clarifier les enjeux au sens de publiciser l'enjeu des débats, Moi, ça me va très bien, parce que plutôt que de savoir à qui on fourgue une voiture de fonction avec des vitres teintées pour savoir si finalement il donnera ses trois voix, ou est-ce qu'on lui donnera telle vice-présidence parce qu'avec 1000 euros d'indemnité, finalement, un tel se vend à tel président. Voilà, mais il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, le débat pour savoir qui devient président d'une intercommunalité est absolument indigne d'une démocratie moderne.
Bon, montons un petit coup sur Paris. Valls Premier ministre.
Ouais.
C'est une véritable cohabitation. Non. À la mode de Chirac ou à la mode de Rocard?
Non, moi, j'ai, franchement,
Il attendra de se faire virer ou c'est lui qui donnera sa démission?
Manuel Valls, moi, ce que j'ai entendu dans sa déclaration de politique générale, c'est des arbitrages qui ont été rendus par le président de la République.
Non, arbitrage, c'est quand même bizarre.
Quand on est à ce niveau-là d'annonce...
Le couple Sapin-Montebourg, ouais. C'est gérable, ça?
Bah, ils vont gérer, écoutez...
Désir aux affaires européennes, c'est une blague.
Bah, y a beaucoup de pays où il n'y a pas de ministère des affaires européennes. C'est une spécificité française.
Ah bah, j'ai appris ça désir, là, je veux dire, voilà le message.
Bah, écoutez, moi, je... Mais là, c'est pareil.
C'est d'autant plus spécifique. France, 12 ministres ou secrétaires d'État aux affaires européennes en 12 ans, il faut le faire, quand même.
Bon, mais écoutez, moi, j'avais un candidat pour ce poste-là. C'est un jeune parlementaire, il s'appelle Mathias Fekel. C'est un vrai spécialiste des questions européennes. Il est franco-allemand, en plus. Il est premier fédéral du Lot-et-Garonne. En plus, ça donnait un petit peu plus aussi de voix au sud dans ce gouvernement qui est quand même, pour beaucoup, un gouvernement du nord de la France. Et moi, j'ai toujours entendu dire que l'histoire de France ne se résumait pas à l'histoire de l'île de France. Cela étant, voilà, Alain Désir connaît quand même aussi bien les affaires européennes. Mais un jour, il faudra réfléchir à la pertinence ou pas de ce ministère. Est-ce que ça sert vraiment d'avoir un ministère des Affaires européennes alors qu'en fait tout se décide en Conseil des ministres de chaque thème, hein, si vous voulez, c'est le Conseil des ministres de l'agriculture, le Conseil des ministres de la jeunesse et des sports. Bon,
il n'y a pas le Conseil des ministres des Affaires européennes.
Ça montre symboliquement l'attachement de la France à la question européenne.
Bah, bon, il y a dernière chose, je suis sûr, ce gouvernement.
Je suis sûr que dans un prochain
Jean-Pierre Jouyet, le sarkozyste à l'Élysée, ouais. Avec Valls, le sarco compatible. Est-ce que c'est vraiment ça, le socialisme?
Non, écoutez, Jouyet et Valls, c'est deux Hollando-compatibles. Voilà. Valls, il a eu une relation...
Alors, quelle est la différence entre Hollande et Sarkozy?
...de la campagne présidentielle avec le président de la République. Jouyet, c'est un ami de longue date. Ils pourront travailler, je pense, du coup, en synergie. C'est des couples aussi, si vous les appelez comme ça, qui vont avoir beaucoup d'efficacité parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils travaillent bien ensemble. Puis, sarco-compatible, on s'en fout. Vous savez, Nicolas Sarkozy, je pense qu'aujourd'hui, il a plutôt des comptes à régler avec la justice française et qu'à mon avis, il ne sera pas le prochain adversaire du candidat socialiste en 2017.
Bon, 88 députés socialistes, dont Christian Assaf, sont entrés en rébellion contre le pouvoir exécutif. Pourquoi toi, t'es pas rentré en rébellion? Pour avoir un secrétariat d'État?
Non, mais moi tout à l'heure, vous m'avez un peu chauffé, là, un peu taquiné sur l'histoire du Godillot, etc. Quand on est élu, on est ramené quand même à une certaine modestie. Quand on est élu député, pourquoi j'ai été élu député? Il faut toujours être humble. Je suis élu député parce que François Hollande a été élu. C'est la première des conditions. Je suis ensuite élu député. D'ailleurs, je suis très critiqué là-dessus, mais pourquoi pas, moi j'admets tout. Parce qu'il y a une triangulaire... Et que le Front National est fort dans ma circonscription. Pourquoi le Front National est fort dans ma circonscription? Parce qu'elle compte les deux zones d'emploi les plus touchées par le chômage, pas le département, pas de la région, de tout le pays. Agde-Pézenas, c'est 17,9% de chômage, et 7, c'est 17% de chômage. Bon, c'est l'explication essentielle d'ailleurs du vote FN. C'est pas 20% de racistes et de xénophobes. Bon, d'ailleurs, il faut arrêter de qualifier le Front National comme ça aujourd'hui. Il y a un vote qui est social aussi, hein, dans le vote Front National, ou de désespérance sociale. Et puis il y a aussi aujourd'hui un vote d'adhésion. Vous savez, moi je ne pensais pas être élu, parce que je pensais que le candidat UMP, entre les deux tours, il siphonnerait les voix du Front National. Pourquoi il ne les a pas siphonnées? Parce que l'électeur qui vote FN au premier, il revote FN au second. Bon. Donc ça aussi, il faudra réfléchir là-dessus. Donc pourquoi moi je ne signe pas des appels de ce type? Parce que je me rappelle toujours les conditions de mon élection, qui me ramènent à beaucoup d'humilité. Je suis élu député d'abord parce que François Hollande est élu et qu'il y a une dynamique qui porte ensuite une majorité au pouvoir. Donc il faut être fidèle à ce message originel des citoyens. Et puis les rappeler eux-mêmes aussi à ce qu'ils souhaitaient. Ils ont souhaité un changement dans les termes qui leur ont été présentés avant l'élection du 6 mai avec un contrat de majorité au mois de juin 2012.
Bon, j'aurais voulu aussi te poser encore une autre question, mais on va passer à la phase suivante. J'aurais voulu te demander quand est-ce que vous comptez rétablir la République. Mais enfin, bon, trop d'épines tue la rose, et surtout ne mélangeons pas tout. On va laisser un instant traîner nos oreilles dans quelques divertissements sonores. Ben, je vous propose un bon truc, c'est toi, Georges Brassens, les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteror, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, Globe a lancé des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Eh bien, quoi qu'il en soit, la brute est partie rejoindre le bon dans les entrailles radiophoniques de Divergence, et voilà le truand qui pointe sa corde pour tordre le cou aux idées reçues. Le truand est un voyou, nationaliste plus que patriote. Quand on lui dit Europe, il voit rouge et se sent tout prêt à faire front. Alors, on va l'écouter.
Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. C'est pourquoi la prochaine fois, je veux plus de la moitié.
Oui, tu as la corde au cou, mais moi, je tire. Et si tu me rognes mon pourcentage, il peut arriver que je rate mon coup.
Bon, alors, l'Europe. Nous allons parler de l'Europe, Sébastien. L'Europe qui était à la fois si présente et si loin. Ces dernières années, l'UE a été le théâtre de multiples péripéties, crise financière, crise de la dette, crise de l'euro, et surtout, ce qui touche nos concitoyens, c'est coupes budgétaires. C'est dans ce contexte que l'UE organise les élections du Parlement européen là, du 22 au 25 mai 2014. Lors de ces élections, le débat devrait s'organiser entre les défenseurs des mesures d'austérité rigoureuses et les partisans de l'étalement des restrictions budgétaires hein, sur une période plus longue afin de stimuler la consommation, la croissance et la réduction des taux de chômage. Mais que vaut ce débat quand la confiance dans l'Union européenne atteint un niveau historiquement bas, 60% des Européens, deux fois plus qu'en 2007. Par ailleurs, les sondages indiquent un taux d'abstention prévisible de 61% en France. À l'incompréhension du fonctionnement de l'UE, qui fait que personne ne sait qui fait quoi et qui contrôle quoi, se mêle une lassitude européenne pour une très large population qui connaît le chômage, des inégalités grandissantes, l'incertitude de l'avenir. S'ajoute un déficit de démocratie, évident. Les mêmes sondages créditent le FN en tête avec 24% et confirment les avancées de l'euroscepticisme. À 40 jours du scrutin, la question que je pose, ça sera la première. Quelles peuvent être les motivations politiques qui justifient l'absence d'un véritable débat?
Voilà, sur le Lido réensablé, le bon, la brute et le truand ont traîné leurs tongs. Et d'ici de là, en se tournant vers les étangs, ils ont déniché quelques grenouilles prêtes à être disséquées à l'heure du déjeuner. Friand de ces petits batraciens, le bon, la brute et le truand s'efforcent chaque semaine de varier les plaisirs. Une semaine, une grenouille à ventre vert. Une autre semaine, à ventre rouge ou bleu. Et cette semaine, nous avons trouvé la fameuse grenouille à ventre rose. Elle répond, quand elle coasse, au nom de Sébastien Denaja. Ah, trêve de plaisanterie. Revenons au sérieux de la chose et voyons ce que ça donne quand on tente de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, même si ça nous intéresse. Et je commencerai par une petite proboscopie avant de laisser la parole au truand. Arlène Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes, avec deux nonistes, le chef du gouvernement, Manuel Valls, et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Trois anti-européens, presque. C'est une plaisanterie hollandaise ou quoi?
Non mais arrêtez, les gens qui avaient voté non, d'abord c'est pas des anti-européens, c'est des gens qui voulaient une Europe différemment. Bon. Puis voilà, le oui et le non c'est quand même loin, donc on peut quand même passer à autre chose. Et je pense que le Parti Socialiste a suffisamment été déchiré sur ces questions-là pour pas...
Oui, enfin pour les Allemands quand même, le message est clair, hein.
Non, mais le oui et le non, il existe.
Non, mais écoutez, d'ailleurs, s'il y a des partisans du non qui sont à des places éminentes dans ce gouvernement, ça montre aussi qu'on est dans une... Ce que Claude Bartolone appelait une confrontation aussi loyale. Mais il faut aussi qu'il y ait une tension amicale avec les Allemands. Ce matin, j'ai lu un tweet de Raffarin qui dit « L'Europe, de toute façon, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il s'agit de savoir ce que les Français et les Allemands sont d'accord de mettre ensemble et de vouloir ensemble. » Moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand vous discutez avec les Allemands, c'est dans l'amitié, mais quand même avec un gros bâton dans la main. Et donc, si effectivement, ils interprètent un certain nombre de signaux comme les signaux d'une amitié virile, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Bon, moi, sur l'Europe, ce que je veux dire, c'est que je vois très bien, en tout cas dans la circonscription où je suis élu, qui avait voté non, justement, à je sais plus combien, 70%, 75%, qu'on n'en est toujours pas revenu de ce désamour entre les citoyens et l'Europe. Donc tant qu'on ne fera pas la preuve de l'utilité de l'Europe, on n'avancera pas. D'abord parce que, vous voyez, il est loin le temps où on arrivait même, ne serait-ce qu'en mettant en avant l'Europe de la paix, à convaincre encore des gens de l'utilité de l'Europe. Moi, je suis petit-fils de résistant, alors j'ai été sensibilisé à ça, alors j'y crois encore aussi, ne serait-ce que sur cet aspect-là. Mais quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, quand on vous parle de l'Europe de la paix, si vous voulez, c'est complètement fumeux, c'est une idée complètement irréelle. On ne comprend pas qu'il y a à peine quelques générations, on s'entretuait effectivement encore entre Européens, entre Allemands et Français notamment. Ce que je crois surtout, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a en France une politique notamment basée sur des économies budgétaires, 50 milliards annoncés avant 2017. Il faut donc que l'Europe, dans le même temps, soit l'instrument
de la relance. Le FOL refuse de préciser, d'ailleurs.
Il faut que...
50 milliards.
Ça sera précisé.
Non, attends, revenons.
Ça sera forcément... Je reviens à vos questions, justement. Je reviens aux questions sur l'Europe. sur l'Europe, il faut donc que l'Europe puisse être, elle, un outil de relance. Donc il faut qu'elle ait des moyens, et notamment un budget qui ne soit pas juste cantonné à moins de 1% du PIB européen, alors que le PIB européen, c'est le plus grand PIB du monde. C'est la zone la plus riche du monde. Même avec la Grèce, même avec le Portugal, on reste en fait la zone encore économique la plus puissante du monde. Sauf que comme elle n'est pas coordonnée, on n'en fait rien. Et puis je vais vous dire là-dessus, je suis presque mélanchoniste. Un jour, il faudra bien que la Banque Centrale Européenne soit un outil aussi puissant que l'est la Réserve Fédérale Américaine. Pourquoi nous, chaque année, on va encore cette année dépenser 50 milliards d'euros d'intérêts pour rembourser notre propre dette ? D'ailleurs, sinon, un jour, il va arriver le moment où on dira, écoutez, on ne rembourse pas. Hein. Bon.
C'est une bonne idée.
Les intermédiaires de la Banque Européenne ne sont pas les États, ce sont les banques. C'est ça le vrai problème.
Bah oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là. Et que sur la question même de l'union bancaire, en tout cas du rôle des banques et du rôle de la Banque Centrale Européenne, il y a quelque chose de majeur évoluer. Mais... Et là-dessus, moi je le dis très honnêtement, vous voyez, le godillot discipliné, il vous dit quand même que sur l'Europe, il n'est pas prêt à avaler toutes les coulevents.
Bon, ça j'entends. Parce que quand même, quelque part, si on en est où on en est aujourd'hui, et puis moi, là-dessus, sur la paix, moi je te l'ai dit franchement, Sébastien, c'est qu'on nous a vendu un demi-siècle de paix. Mais la paix, c'est l'Europe et c'est pas l'Europe. C'est tout simplement, si les gens ont adhéré pendant un certain temps à l'Europe, c'est qu'effectivement, bon, ben, l'Europe a nourri, en quelque sorte, les Européens. Il n'y avait pas de problème financier. C'est à partir du moment où il y a des problèmes qu'effectivement, les questions se posent. Mais il n'empêche pas moins que la construction européenne s'est faite sans eux. Et toi qui, effectivement, mis en avant... la démocratie participative, y compris dans le moindre village, à partir de ce moment-là, force est de reconnaître que la construction démocratique de l'Europe n'existe pas. C'est ça le véritable point. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les citoyens ont reçu l'Europe dans la mesure où elle a mené quelque chose. Ma foi, il ne s'en est pas plein. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été construit et qui lui apporte pour la première fois du négatif. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et ce débat politique, c'est une guerre d'administratif, aujourd'hui, entre guillemets, entre les partisans du Nord d'une Europe rigoureuse, avec les partisans du Sud d'une Europe un petit peu plus...
bordélique.
Non, pas bordélique, mais... dans laquelle, effectivement, où les problèmes ne se présentent pas de la même façon. C'est un débat économique, mais ça ne pose pas le problème fondamental. Or, le problème fondamental, ce véritable débat, il existe ou il n'existe pas ? C'est la question que je te pose.
Si, mais déjà, même sur... Pour moi, c'est fondamental, la question du rééquilibrage aussi de l'Europe au Sud. Bon, d'abord parce qu'ici, on est des Méditerranéens, mais de même que je l'ai dit, le gouvernement de la France ne peut pas se résumer au gouvernement du Nord de la France. Le gouvernement de l'Europe ne peut pas se résumer au gouvernement du Nord de l'Europe. Je pense d'ailleurs qu'il nous faut absolument reprendre en main la question de l'union des peuples de Méditerranée autour de questions concrètes. Tiens, par exemple, ça pourrait être autour de ce que fait le conseiller général de l'Euro ici sur la submersion marine. Il faut des projets concrets. Il faut incarner aussi ce que fait concrètement l'Europe. D'ailleurs, est-ce que les citoyens savent quand même que c'est grâce à l'Europe que seront injectés près de 900 millions d'euros dans les 5 prochaines années sur le territoire languedocien ?
Je suis pas sûr qu'il le sache. C'est bien que les régions récupèrent la gestion des fonds européens en direct.
Oui, moi je pense que ça sera moins techno que une gestion moins technocratique que par l'État. Bon, après il faut espérer justement aussi que ce soit pas à l'inverse du saupoudrage politique. Heureusement ici pour l'instant avec Christian Bourquin, comme ce le fut avec Georges Frêche, on est dans le déploiement de véritables politiques publiques. Et pas dans le saupoudrage clientéliste du système
avec Christian
blanc.
Bourquin, avec Christian Bourquin.
Oui, Bourquin, il a...
Avec Frêche, je l'entends bien, mais...
Bourquin, il a une politique qui est tout à fait dans les clous de ce que faisait Georges Frêche sur des politiques publiques intégrées d'envergure, notamment sur la question maritime. Absolument. Écoutez, là-dessus, vous ne pouvez pas le prendre en défaut. Non, hein. Sur la politique maritime, il y a une ambition forte qui est affirmée par Christian Bourquin, le Parlement de la mer, ce qui a été fait...
La gestion des ports.
Et la gestion des ports, j'allais y venir avec la question du port de Sète sur les quelques dernières années.
Ça, c'est Frêche qui l'avait institué.
Oui, mais enfin, il fallait le continuer. Il aurait très bien pu arrêter. Il a continué au tel point qu'aujourd'hui, on en est sur le port de Sète à 144 millions d'euros qui ont été injectés par la puissance publique régionale sur le port de Sète, qui était un port en déliquescence totale, parce que justement l'État s'en était totalement désintéressé.
Donc c'est grâce à Navarro alors, parce que c'est Navarro qui est un peu en charge de la question au niveau régional.
C'est grâce au vote du Conseil régional qui, dans sa collégialité, vote le budget et qui est exécuté d'abord par le président de région, sous les auspices aussi de l'excellentissime Claude Cougnin, directeur général des services.
Mais
il paraît qu'il a failli se friter avec la rectrice, Claude Cougnin.
Ça m'étonnerait. C'est un homme d'une...
Mais se friter au sens concret. Au sens, ben, visiblement...
Non, écoutez, je ne connais pas l'histoire.
Revenons au port de Sète. Juste un point, je suis désolé, le truand. Mais un port a besoin d'un hinterland. Actuellement, c'est un vrai problème sur la région Languedoc-Roussillon. Quelle en est la raison essentielle ?
Il y a des difficultés entre ceux qui pensent que cet hinterland, il pourrait être fait au plus près du port de Sète et donc sur une aire géographique qui est située entre Sète, Frontignan, bref, dans l'immédiateté géographique du port, et d'autres qui, jusque-là, pensaient que ça pouvait être un tout petit peu plus éloigné en allant vers la sortie d'autoroute de la Neuf au droit de la commune de Poussan. Mais j'avoue que ce débat est aujourd'hui un petit peu opaque, hein, et que moi-même, je suis bien dans l'incapacité de vous dire quelles sont les solutions.
Faudra un jour récupérer la zone de la mobile.
Vraiment envisager. Oui, sans doute qu'un jour, il faudra requalifier ce territoire. Mais je pense que c'est d'ailleurs une volonté de Pierre Bouledoir, qui, je l'espère, sera, dans les prochaines semaines, reconduit comme président de l'agglomération, de Tôt Agglomération.
Ça, c'est pas gagné, ça.
Écoutez, moi, modestement, pour ce qui me concerne, j'y travaille, parce que c'est un bon président d'agglo. Je pense aussi que c'est un territoire qui a besoin d'équilibre et qu'il n'y aurait rien de plus dangereux que de remettre toutes les clés du territoire entre les mains qui ont été parfois assez irresponsables sur la gestion, en tout cas notamment urbanistique du territoire, avec l'actuel maire de Sète.
Tu parles bien de Sète, pas de Montpellier.
Non, je parle de Sète.
Ah non, parce que d'un moment j'ai cru que tu parlais de Montpellier.
Écoutez, moi j'invite tous ceux qui sont de ce territoire à faire, comme on dit, à Sète, venir d'Agde par la plage et à voir les monstres de béton qui viennent d'être édifiés juste au bord du Lido dont vous parliez tout à l'heure. Et est-ce qu'on veut donner
les
clés,
et c'est toujours de ça, tu
est-ce qu'on veut
lire.
Donner toutes les clés de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à un bétonneur certifié, là, maintenant,
on le sait. Tu parles toujours de Sète, là.
Je parle toujours de Sète.
C'est l'agglo de Sète.
Non, mais attendez.
Ce que Sébastien explique, c'est qu'il n'y a plus de place pour que Brassens soit enterré sur la plage.
À Montpellier, je suis très clair. Je pense que l'actuel maire de Montpellier est tout à fait qualifié pour devenir le président de l'agglomération de Montpellier.
Même s'il est le bétonneur en chef. Ou il fut le bétonneur en chef en tant qu'adjoint d'urbanisme.
Le bétonneur en chef, non.
Non, pas bétonneur.
C'est un mauvais procès qui lui est fait, je pense. Parce que d'abord, c'est un maire qui signe les documents essentiels en matière d'urbanisme. Et pas toujours l'adjoint.
Ah, mais on va revenir à l'Europe, on va laisser un petit peu l'agglo de côté. Mais est-ce que tu ne penses pas effectivement que...
Oui, c'est vrai que...
Est-ce que ça peut te satisfaire, tout simplement, qu'il puisse y avoir en France 61% d'abstention à une élection qui
au,
est...
au minimum.
Non, mais moi j'ai découvert le
minimum,
chiffre.
Au minimum, oui. Voilà, bon, moi
J'ai découvert le chiffre, là c'est vrai qu'il est stupéfiant. Moi, la semaine prochaine, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, j'accueillerai... Éric Andrieux, qui est député européen et qui, moi, dont je fais la campagne, parce que voilà, ça c'est quelqu'un qui bosse d'ailleurs sur les dossiers, qui est resté en contact du territoire, parce que c'est pas facile d'être député européen. Hein. Vous êtes député européen ici, par exemple, d'une région qui va de l'Aquitaine jusqu'au Languedoc-Roussillon en passant par Midi-Pyrénées. Donc faire du terrain et être proche des citoyens tout en allant à Bruxelles et à Strasbourg, c'est compliqué. Éric Andrieux, par exemple, il le fait. Bon, je vous avoue que je suis quand même un peu sceptique sur le choix de la tête de liste. Hein, parce que
radicale de gauche.
Non, mais elle est sans doute très sympathique et compétente. Même... Mais la directrice de cabinet d'une ministre PRG dont on ne connaît absolument rien, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une force d'entraînement terrible. Je regrette beaucoup que ce ne soit pas Éric Andrieux, par exemple, qui soit la tête de liste chez nous. Bon, mais bien qu'étant numéro 2... Eh bien voilà la locomotive socialiste des élections européennes sur ce territoire, donc on ne va pas mégoter, moi on fait la campagne, c'est vrai que je suis un peu atterré par le chiffre de l'abstention, mais là aussi il a une signification, il faut y réfléchir dessus.
Mais la question que je me pose est la suivante, par exemple, que fait aujourd'hui, par exemple, j'ai eu entendu parfois François Mitterrand, Jacques Chirac ou d'autres présidents, intervenir justement sur les questions européennes, inciter les citoyens à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, je ne vois pas François Hollande disons, en personne, en tant que président de la République, prendre, inciter les citoyens à aller aux urnes. Le gouvernement, à l'heure actuelle, il est en construction, enfin, où il a été en construction, il ne fait pas davantage. À l'heure actuelle, ces élections européennes, non seulement la moitié des Français ne savent pas qu'elles vont avoir lieu, ils connaissent à peine la date, ils ne savent même pas à savoir comment ça fonctionne. Moi, j'ai fait des tests autour de moi. Les trois quarts des gens, ils ne savent même pas comment fonctionnent, comment sont organisées ces élections, pour qui ils vont voter, et on leur demande...
Non, mais ils peuvent s'intéresser, les gens, aussi. Parce qu'attendez...
Oui, mais,
le politiquement correct...
Je m'adresse à quelqu'un...
Le politiquement correct, c'est qu'on ne va pas assez vers les gens. Je suis, moi, stupéfait aussi par le nombre de gens, en fait, qui ne font pas la démarche aussi de s'intéresser. À quoi sert un député européen? Écoutez, vous tapez sur Internet, ouais. Député européen, à quoi ça sert? Puis vous trouvez à quoi sert un député européen.
On est surinformé plutôt que sous-informé. Non, mais donc,
il faut aussi, il faut aussi un petit peu responsabiliser les gens quand même, parce que c'est un peu fatigant aussi d'entendre dire que on fait. Écoutez, les élections européennes, il y a beaucoup de gens qui savent quand est-ce qu'elles ont lieu. Hier, j'étais avec des amis qui ont quelques années de moins que moi, donc c'est des gens qui ont 20-30 ans. Il y a un couple qui va se marier. Il se marie le 24 mai. Il savait très bien que c'était la veille des élections européennes. Vous voyez, j'ai cet exemple qui me vient en tête. Donc, quand on veut savoir aussi ou s'intéresser. On peut aussi s'intéresser. Il n'y a quand même pas 61% des Français qui sont à ce point ignorants de ce qu'est au moins le Parlement européen ou en gros à quoi ça sert l'Europe. Et puis s'ils ne le savent pas, il y a quand même plein d'outils modernes aussi pour interpeller, pour se renseigner. Il faut aussi, tant pis, je suis sûr que ce que je dis n'est absolument pas... ça ne va pas me faire gagner des voix de dire ça. Mais il faut aussi que les gens se prennent un petit peu en main.
C'est une responsabilité citoyenne, je veux bien, mais enfin, on ne l'apprend pas à lire tout seul.
Non mais moi, je crois qu'un des problèmes aussi de la France, c'est qu'au-delà des 15 à 20 millions de Français qui galèrent, qui sont vraiment en difficulté, donc qui, eux, sont quotidiennement obligés de se demander comment ils bouclent le mois, comment ils remplissent le frigo, comment ils s'occupent des gamins, comment ils vont arriver à acheter les fringues des gamins, etc. Il y a aussi, je pense, des dizaines de millions qui sont dans la situation de gens très dans un certain confort dont ils devraient aussi se rendre compte. Hein parce que ça oblige d'être français aussi. Ça oblige par rapport à tous les pays dans lesquels on voit des difficultés beaucoup plus grandes encore. Moi, je vois des gens qui gagnent combien, allez, parfois entre 5 et 6 000 euros et qui continuent de se plaindre. Non, mais on est chez les fous. On est chez les fous. Moi, je suis député aujourd'hui. Tout le monde sait combien gagne un député. C'est 5 000 euros par mois. Alors, un député socialiste, il donne 10% au PS, donc 4 500 euros par mois. C'est le double de ce que j'avais quand j'étais maître de conférence à la fac. Bon, mais déjà, maître de conférence à la fac, je le savais, j'étais un privilégié. Puisque j'ai fini ma thèse, moi, en étant au chômage à 800 euros par mois. Donc, je sais exactement ce que c'est que bouffer des patates et des pâtes achetées chez Lidl pendant un mois. Il n'y a pas de souci. Bon, donc, il faut aussi que certains Français, à un moment donné, réalisent quand même dans quelle situation on est, dans quelle situation est globalement le pays, et se prennent un petit peu en main. Bon, le président de la République, il ne va pas passer à la télé tous les jours pour dire « Attention, les élections européennes le 25 mai ». Bon, celui qui veut savoir qu'il y a des élections européennes, il lit le journal, il ouvre Internet, il allume la télévision. Bon, je m'emporte un petit peu parce que il y a aussi ça quand même que personne n'ose dire. Il n'y a pas le citoyen vertueux et le politique pourri qui ne pense qu'à lui. Bon, il y a aussi des citoyens. La démocratie participative, ça suppose aussi des citoyens qui veulent participer.
Oui, non, mais justement...
La démocratie continue, ça suppose des citoyens aussi qui, au-delà du moment du vote, ont envie de continuer à s'intéresser aux affaires du pays. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui s'intéressent vaguement le temps d'une campagne et puis qui après se disent « Bon, allez, j'ai voté pour un tel, maintenant, ça a qu'à rouler. » Non, ça ne peut pas rouler. Moi, je pense qu'il faut que les citoyens soient actifs. Il faut aussi qu'ils soient responsables.
Non, la première des choses pour que les citoyens soient actifs, c'est qu'ils aient pris... la conscience, effectivement, du rôle que joue telle institution, telle collectivité territoriale, etc. Chose qui peut se faire aussi sur le plan d'une municipalité, parce qu'on connaît le maire, on sait ce que fait le maire, ses prérogatives, etc. Mais aujourd'hui, y compris, je m'adresse aux députés, même y compris que tu sais pertinemment qu'effectivement, il y a un certain nombre de directives, enfin de règlements et de directives européennes qui pèsent sur chaque Assemblée nationale. Or, en fin de compte, qu'est-ce que c'est le citoyen ? Le citoyen, il sait, ouais, ben, c'est une directive de l'Europe, c'est un règlement de l'Europe.
Ah, c'est quoi la question ? Bon.
Non, mais c'est clair que c'est très compliqué. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup, qui m'a forgé presque sur la question européenne. Un été, j'étais étudiant, j'ai travaillé à l'enlèvement des ordures ménagères dans la ville de Sète. Donc j'étais derrière un camion poubelle, j'ai ramassé les poubelles. Et la ville venait de passer au tri sélectif. Et on faisait un quartier résidentiel où on enlevait poubelle par poubelle. Là, vous savez, c'est chaque villa qui sort sa petite poubelle de recyclage. Et je bossais avec un mec beaucoup plus âgé, qui à chaque poubelle disait, je la fais moins crue qu'elle l'était en vrai, à chaque poubelle disait, et va te faire empapayouter l'Europe, et va te faire empapayouter l'Europe. Parce qu'il était convaincu que c'était l'Europe qui nous avait imposé la poubelle de recyclage. Bon. Donc ça, d'abord, outre le fait que l'anecdote, elle était forte, en plus à ce moment-là, j'étais quand même voilà, étudiant en droit, je savais très bien que c'était pas l'Europe qui nous avait imposé la poubelle, d'ailleurs elle est bleue et jaune à 7, la poubelle de recyclage pour justement les déchets verts, etc. Mais il en était convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans un système, et là vous avez totalement raison, extrêmement complexe, et au final, d'ailleurs, tout ce qui va pas, souvent on dit c'est la faute de l'Europe. Bon, c'est souvent la faute de l'Europe aussi, sur la pêche, sur la conchyliculture. L'Europe, elle nous en kikine parce qu'elle s'occupe de choses où elle ne devrait pas s'en occuper.
C'est le discours du Front National aujourd'hui.
Bah, c'est pas tout ça, mais il est l'heure. Le bon, la brute et le truand se sont acquittés de leur diatribe. Il va être temps de nous dire adieu, non pas adieu, au plaisir de se revoir. Sébastien Denaja, la démocratie participative, il connaît. Ça, il connaît d'autant plus que il a pas dérogé, il a amené... Plus que la bouteille de vin, le magnum, carrément. Et on voit que c'est un député, puisque la cuvée qui nous a amené, c'est prestige.
C'est offert par les vignerons de la cave de l'Occitane à Servian.
À Servian.
Et effectivement, les vignerons, vous savez, quand ils vous offrent une bouteille de vin, ils vous offrent la meilleure, parce qu'ils sont fiers de leur travail.
Et du coup, on a goûté. Alors, c'est vrai que prestige de Clamerie, donc de la cave coopérative de Servian, en magnum 2011, c'est pas mal du tout. Bon. Monsieur le député, cher grenouille à ventre rose, il va être temps de conclure cette émission. Remerciements et salutations à la technique réalisée par Bruno Bertrand, sachant que c'est toujours lui qui conçoit l'intégralité de l'habillage sonore de l'émission. Et putain, oh, on est fatigué. Bah, c'est normal, on est fatigant. Alors on va partir se reposer, se ressourcer. Tout d'abord, on va sonner les cloches, même si elles sont Pascal, on s'en fout. Puis on partira ailleurs, voir si on y est. Alors, détendu, frais et dispo, on retrouvera les chemins radiophoniques. Nous serons le 12 mai. Et notre invité sera le maire, dissident, Philippe Sorel. D'ici là, il aura pris ses marques, compris qu'il était maire, entamé une politique de la ville, vu son ami Manuel Valls, et nous dira tout. Enfin, il a intérêt, parce que sinon, on ne lui cause plus, hein. Soit il dit tout, soit on lui cause plus. À ne pas rater le lundi 12 mai sur Divergence dans Provoscopie, de 12h à 13h30 en direct. Et en attendant, n'oubliez jamais que sur Divergence, la révolte n'est pas un droit, mais un devoir, et qu'il ne suffit pas de descendre dans la rue, encore faut-il y rester. Merci, et donc à très bientôt.